Merci Victor, merci à vous d'être là, merci aux organisateurs de leur invitation. Je vois à vos petits yeux que la semaine a été riche, donc je vais essayer de ne pas vous endormir et peut-être de vous réveiller, qui sait, avec ce sujet extrêmement vaste qui est la conversion par l'art et ce petit biais différent que j'ai choisi grâce à René Girard, qui est en réalité la conversion de l'art. Parce que la question qu'on va essayer de se poser ensemble, c'est... Pour se convertir par l'art, ne faudrait-il pas d'abord que l'art lui-même soit converti? Et on va voir converti à quoi et jusqu'où peut mener une conversion par l'art et ce que René Girard entendait par le mot conversion. Et donc là, vous voyez le livre de René Girard, La conversion de l'art, que vous devez lire absolument. Et il est bien évident que si, voilà, on ne peut pas, on ne se convertira pas à la même chose en ayant en face de nous ce qui était sur la couverture du livre, savoir ce qu'on appelle les arts premiers ou les arts primitifs, ou ce type de choses. Donc c'est vraiment ça la question, c'est en étant face à une œuvre d'art, face à une beauté quelconque, que va être cette histoire de conversion? Alors que nous dit René Girard dans son livre? Évidemment, il développe cette idée depuis le début en réalité de ses travaux, René Girard, avant d'être un anthropologue, c'est un critique littéraire. Et il s'est rendu compte d'une chose, c'est que dans les grandes œuvres littéraires, il va y avoir ce qu'il a appelé le désir mimétique qui sera mis en scène. Alors qu'est-ce que le désir mimétique? René Girard nous dit que ce qui est la première chose dans l'homme, c'est le désir. Et ce désir mimétique, ce désir ne nous appartient jamais. Il est toujours l'imitation du désir de quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre qu'on prendra pour modèle. C'est-à-dire que votre désir ne vous appartient pas. Ça, c'est une bombe atomique. C'est-à-dire que si aujourd'hui on avait tout ça en tête, toute la modernité s'effondre. Votre désir ne vous appartient pas, il appartient à un autre que vous allez imiter. Donc il y a deux choix. Soit cette imitation, ce modèle, on va dire, pour faire très très simple, est positif, c'est-à-dire que vous avez choisi comme modèle, je ne sais pas, un grand intellectuel, un abbé, quelque chose comme ça, une personne un peu supérieure, ça va être positif, il n'y aura pas de rivalité entre vous, pardon. Et vous allez pouvoir avancer dans votre vie et vous former grâce à ce modèle. Mais, et ça c'est dans la plupart des cas d'après René Girard, il va se créer ce qu'il appelle une rivalité mimétique entre la personne qui a imité le désir de l'autre et cet autre qui a vu son désir être imité. Donc René Girard nous explique que quand ce désir mimétique se transforme en rivalité mimétique à l'intérieur d'un groupe, cela va jusqu'à la désignation d'un bouc émissaire, et donc jusqu'à un sacrifice rituel, qui peut être un sacrifice animal ou un sacrifice humain. Et on va voir qu'à travers tous les exemples que je vais vous montrer, quand vous avez cette grille de lecture pour regarder une œuvre d'art, regarder un film, regarder une série, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes dans la salle, à mon avis, vous regardez beaucoup des séries, et quand vous avez cette grille de lecture, vous vous rendez compte que vous êtes vraiment dans le vrai, et on va voir... Et si on peut vraiment se convertir par l'art, si cet art n'est pas lui-même converti. René Girard, dans son livre, donne un exemple. Il en donne beaucoup d'autres, mais je n'en citerai qu'un seul, l'exemple de Proust et de sa somme à la recherche du temps perdu. Et il nous explique que quand on lit Proust, on est dans un processus de conversion. Alors effectivement, on voit le personnage principal petit à petit changer. Il y a deux sortes de conversion. Il y a la conversion, il y a ce qu'on appelle la métanoïa, qui veut dire qu'on va changer d'avis quasiment, pour faire très simple. On voit ce personnage changer vers quelque chose de plus pacifique, quelque chose de moins violent. Et René Girard nous dit qu'on assiste également à la conversion de l'auteur lui-même. C'est-à-dire qu'il y a une double conversion. Il y a la conversion de l'auteur, de Proust lui-même, et la conversion de l'auteur principal. Qu'est-ce qu'il entend par conversion? C'est-à-dire que le personnage principal va enfin arrêter d'imiter le désir des autres et sortir des processus de violence, des processus de rivalité mimétique. Il faut savoir que Proust, quand il est à la fin de l'écriture de son livre, il s'intéresse énormément au christianisme, chose qui est peu dite quand même, mais malheureusement, il va s'adresser à André Gide, ce n'était pas forcément le meilleur choix. Pour en savoir plus sur le christianisme, mais il n'ira jamais au bout lui-même de sa propre conversion religieuse, tandis que son personnage se convertit religieusement mais pas à une religion. C'est ça qui est vraiment important à comprendre. Et je sais que Proust peut endormir avec ses longues phrases, donc on va passer à un autre thème. Je suis allé au cinéma dernièrement, je pense que vous avez vu ce film de Christopher Nolan, qui s'appelle Oppenheimer, qui est sur le grand génie, qui était Oppenheimer, j'imagine que vous l'avez vu. Et si vous ne l'avez pas vu, ça n'est pas très grave, parce que la scène dont je vais vous parler n'est pas dans le film. Comme ce personnage m'intéresse, je me suis mis à lire sa biographie, ce petit livre-là pour l'été, et je me suis dit, mais quand même, ce grand génie qui était Oppenheimer, c'était un génie de l'astrophysique, un génie de toutes les sciences de l'atome, etc. Mais c'était un très très grand lettré. Il savait parler latin, il savait parler grec, il lisait les œuvres dans les Vous m'entendez toujours là? Oui. Il lisait les œuvres dans la langue originelle, et je découvre dans ce livre, que Oppenheimer avait une jeunesse très, très, très compliquée. Il avait des énormes problèmes psychiques. Et quand, si vous lisez ce livre, qui est vraiment, pour moi, c'est un chef-d'œuvre, je pense que j'ai mis, Victor, la couverture du livre en troisième, me semble-t-il. Ce livre a reçu le prix Pulitzer. Donc, vous pouvez lire, ça se lit comme un roman, presque comme un polar. Et donc, le petit Robert Oppenheimer a des crises psychiques, psychologiques extrêmement importantes qui lui font voir énormément de psy, et ses parents ne savent pas comment faire, etc. Et pendant un voyage avec des amis en Corse, il prend, à la recherche du temps perdu dans son sac, et il lit ça le soir dans sa tente, ou dans les auberges, on peut imaginer ça, et il va vivre lui-même un processus de conversion grâce à ce livre. C'est un processus de conversion, c'est évidemment religieux, mais ce n'est pas une conversion à une religion. Oppenheimer, de confession juive par ses parents, il ne va pas en changer. Mais on découvre, ça m'a vraiment beaucoup intéressé, que quand il parle de cette lecture de Proust, ça va le calmer. Tout ce qui est violence en lui va petit à petit disparaître, même pas tout à fait, on le voit bien dans le film ça. Mais voici ce qu'il nous dit quelque temps après la lecture de Proust, où il s'est vraiment mis à travailler et à avoir de la discipline. Je pense que c'est ce que vous avez connu pendant une semaine avec Victor. Voilà ce qu'il nous dit. « Je crois que par la discipline, nous apprenons à conserver ce qui est essentiel à notre bonheur lorsque les circonstances se font de plus en plus défavorables. » Et il nous dit ensuite qu'il est possible de voir le monde sans qu'il soit grossièrement déformé par le désir personnel grâce à cette discipline qu'il a eue, il appelle ça discipline, mais nous on appellera ça une conversion, qu'il a eue par la lecture de Proust. Donc on voit bien qu'il parle du désir personnel, il était en mauvaise relation avec ce désir personnel, qui était imité du désir d'un autre, et qui créait en lui des problèmes psychiques énormes. Donc ça c'est un premier exemple de conversion, qui n'est, j'insiste bien là-dessus, pas une conversion à une religion particulière, mais une conversion religieuse tout de même. Alors, je vais vous donner ensuite des exemples. Je vais vous donner un exemple en anthropologie et des exemples de films et de séries. On commence par l'exemple anthropologique, Victor, avec la prochaine image, qui est un village dans la Turquie actuelle qui s'appelle Çatalhöyük. S'il y a des turcophones, vous m'excuserez, je pense que ça se prononce Çatalhöyük, qui est un village qui a été découvert il y a une vingtaine d'années par Jan Oder, qui est un très, très grand archéologue. Enfin, ce n'est pas lui qui a découvert d'ailleurs, mais c'est lui qui a été chargé de creuser et de nous montrer toutes ces choses-là, toutes ces découvertes. Et c'est un village qui a révolutionné ce qu'on pensait savoir de l'homme et de la sédentarisation de l'homme. On pensait, ça vient du marxisme, on pensait que l'homme s'était mis à arrêter d'être nomade et à s'installer dans des endroits pour des raisons économiques. C'est-à-dire on va arrêter de chasser, on va arrêter de perdre notre temps dans les promenades, les chasses, on va élever des animaux, on va se mettre près d'un cours d'eau et on va vivre là tous ensemble. Et on se rend compte que, grâce à ce village, que c'est faux. Ce village donc, date de moins 7500 avant Jésus-Christ. Donc on est vraiment très néolithique. Et on se rend compte d'une chose, c'est que, en réalité, ce que vous voyez autour, ce ne sont pas des rivières, ce sont des marécages. Peut-être qu'on voit mieux sur la prochaine, je ne sais plus, Victor, sur la prochaine image, pas du tout. Ça n'a rien à voir. Donc tu peux revenir en arrière. Donc ce sont des marécages Et il n'y a rien autour, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité de chasser, de trouver à manger, de trouver de la nourriture. Et les archéologues aujourd'hui nous disent que le taux de paludisme, par exemple, devait être totalement énorme dans ce village. Et donc la question était un peu sans réponse. Et donc Yann Hodeur, en 2008, appelle René Girard pour venir sur place et lui demander son avis sur le pourquoi du comment de ce village qui est très particulier parce que, comme vous voyez, il n'y a pas de rue. Toutes les maisons sont collées les unes aux autres. On rentre par le toit. Et René Girard, en visitant ce village, eh bien, va découvrir des choses intéressantes qui vont lui permettre de proposer une théorie. Donc là, on peut aller à l'autre image, qui n'est pas des marécages, mais une déesse. Donc là, on est déjà dans de l'art. Certains appellent ça l'art primitif. On est déjà dans une forme d'art qui est la représentation de la déesse mère de ce village de Tchataloumiouk. C'est une petite statuette, je crois, d'une vingtaine de centimètres. Et donc, ça a beaucoup intéressé les archéologues parce que, évidemment, ces gens qui semblaient s'être installés pour des raisons étranges, puisque ça n'était pas pour des raisons économiques, visiblement avaient quand même des déesses qu'il fallait forcément honorer. Donc, je ne sais plus ce que j'ai mis après, Victor, mais allons voir. Voilà, là, vous avez une coupe de la pièce principale d'une des maisons. Donc, vous voyez, en réalité, je ne vais pas vous faire toute la description des maisons, mais ce qui est intéressant, c'est la partie à droite qui est ornée de cornes, on va dire de taureaux, ce sont des aurochs, mais on va appeler ça des taureaux, des cornes de taureaux qui sont sur le lieu, sur la droite. Est-ce que tout le monde voit bien les images, au fond, ouais. Et là, on découvre, en creusant, des ossements animaux et des ossements humains. Je pense qu'on peut continuer. Voilà, là, c'est une reconstitution numérique. Et vous voyez que la déesse est montrée par un objet d'art au-dessus du taureau. Donc, c'est la déesse mère qui est tout en haut. Et ensuite, vous avez les aurochs, là, les fameux aurochs, qui sont montrés là. Et donc, vous rentriez par le haut avec cette échelle. Donc, on peut continuer. Encore une coupe pour vous rendre ça un peu plus lisible. Allons-y encore pour la suite. Voilà. Et là, ça va beaucoup intéresser René Girard et ça intéresse toujours les archéologues parce qu'on pensait voir ici une scène de chasse. C'est ce que pensaient en tout cas les premiers archéologues qui ont découvert ces peintures, ces dessins. Et je pense qu'elle est en meilleure qualité. Enfin, il y a une reproduction de meilleure qualité ensuite. Voilà. Et grâce à René Girard, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que ce n'était pas une scène, pardon, de chasse. Mais c'était une scène de rituel sacrificiel parce que les petits bonshommes qui sont autour ne sont pas du tout en train de chasser, ils sont en train de danser. Ils ont les pagnes, on ne va pas rentrer dans les détails, mais ils ont les attributs de la danse et ils viennent comme ça attaquer petit à petit cet auroch qui est montré beaucoup plus gros que le reste de la communauté parce que, nous dit René Girard, comme je vous l'ai dit au début, quand ce désir mimétique se transforme en rivalité mimétique, il faut forcément sacrifier un animal ou un être humain pour que la société se refonde et que la société continue à exister. C'est-à-dire que la violence qui pourrait y avoir entre tous les individus, du tous contre tous, va se transformer en tous contre un, donc contre cet animal-là, qui est donc ce fameux auroch. Donc tout ça est de l'art et un processus religieux. Je vous laisse vous imaginer à quelle conversion vous pourriez être amené à faire si vous étiez face à ces œuvres. En fait, ce que j'essaie d'expliquer, c'est qu'il ne faut pas être naïf en pensant que on se convertit par l'art. Pour se convertir, il faut être accompagné et il faut savoir décrypter des œuvres d'art qui pourraient nous emmener vers des choses négatives et pour les croyants dans la salle, des choses qu'on pourrait appeler sataniques en réalité. Donc, la suite, Victor, on va voir ce qui a été mis. Ah, voilà. Ah, très bien. Ça, c'est aussi quelque chose qui a intéressé René Girard. C'est qu'on voyait beaucoup dans certaines maisons, qui étaient sans doute des maisons des prêtres, des deux léopards qui se font face, sachant que le léopard n'était pas présent aux alentours et que le léopard n'était pas présent à l'intérieur des maisons. Donc, la théorie de René Girard, c'est de dire c'est un totem. Et il y avait, de manière inconsciente évidemment, mais cette cette préscience, on pourrait dire, de la rivalité mimétique entre ces deux animaux qui se font, ça c'est une reproduction, hein, mais vraiment dans la réalité, ils se font tête contre tête et les deux pattes avant contre les deux pattes avant, ce qui symbolise de manière vraiment totémique cette rivalité qui est au cœur de cette communauté, de cette tribu, il y avait quand même 3000 personnes, je crois, de ce village, on va dire, qui était Tchataloyuk. Est-ce que, Victor, j'ai encore d'autres choses sur ce village ou pas? On arrive au film après. Donc, la théorie qui a été montrée par René Girard, c'est laquelle? C'est qu'en réalité, ces gens qui ont construit ce village étaient des prêtres. C'était sans doute l'élite d'un autre peuple qui, sans doute, ne supportait plus la bassesse de ses contemporains et s'est dit, bah, écoutez, nos amis les élites, on va se mettre ailleurs et on va enfin pouvoir pratiquer notre adoration des dieux par la pratique du sacrifice rituel. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a trouvé, et ça c'est vraiment une première mondiale quand ils ont trouvé ça, la pratique rituelle de ces gens était journalière. Et plusieurs fois par jour, on sacrifiait des animaux et des êtres humains. On replâtrait même les crânes qui avaient été fracturés par un coup de ce que vous pouvez imaginer. On replâtrait ce crâne pour qu'il soit à nouveau et encore sacrifié. Donc on avait sans doute, peut-être que ce sera démenti à l'avenir, mais je ne pense pas, en tout cas les archéologues aujourd'hui ne le pensent plus, sans doute que ces élites avaient comme unique but dans leur existence de sacrifier à leur dieu et à cette fameuse déesse qu'on a vue auparavant. Je vous donne une autre information qui devait sans doute faciliter le sacrifice humain. Ce n'est pas très marrant ce que je vous raconte quand même, mais quand il y avait un nouveau-né dans la tribu, eh bien, il était systématiquement mis dans une autre famille. C'est-à-dire que les parents n'élevaient pas leurs propres enfants. Ça, les tests sur les os l'ont montré très bien, ce qui devait sans doute permettre une désignation du bouc émissaire plus simple, puisqu'on ne sacrifiait pas ses propres enfants. La suite va être un peu plus drôle, puisqu'on va passer au film. Donc, vous avez bien compris, conversion par l'art, si vous vous convertissez ou vous tentez de vous convertir avec ce type de choses, vous n'arrivez pas à la même chose que si vous tentez de vous convertir par des choses plus positives et plus chrétiennes, plus catholiques, si on veut. Donc là, je vais vous montrer un premier extrait de film, qui est le film de Jacques Audiard, qui s'intitule « De battre mon cœur s'est arrêté », qui est sorti, je pense, il y a bien 15 ans maintenant, qui m'avait beaucoup plu à l'époque, et je n'avais pas cette grille de lecture à l'époque, mais en travaillant sur la conférence, je me suis rendu compte qu'en réalité, le personnage principal, bah, il vit une conversion, et vit une conversion par l'art. Donc, je vous donne le terreau très rapidement. Donc, le personnage joué par Romain Duris est fils d'une sorte de malfrat de l'immobilier, qui n'hésite pas à déloger des gens, à frapper, à peut-être même plus. Enfin, le sang coule beaucoup dans la vie de son père, qui est donc cet agent véreux immobilier. Et le personnage, donc Thomas Serre, va suivre la voie de son père. Donc là, on voit que son désir ne lui appartient pas. Il imite le désir de son père et va devenir une sorte, lui aussi, de malfrat d'immobilier, jusqu'à ce qu'il découvre que sa mère, qui est décédée, pratiquer le piano, et il va se mettre lui aussi à vouloir, peut-être un peu dans un esprit un peu d'orgueil, à vouloir lui aussi un peu décharger sa haine par la pratique de l'art et la pratique du piano et des œuvres uniquement classiques. Il y a beaucoup de Bach dans le film. Donc là, on est dans quelque chose où l'art lui-même est déjà converti. Il ne va pas se mettre... Non, je ne vais pas citer d'autres instruments, parce que s'il y en a qui font autre chose, ils vont mal le prendre. Il ne va pas se mettre à faire un instrument, disons, non noble. Il va se mettre à jouer du piano, à essayer, et à jouer des grandes œuvres. Donc là, le premier extrait, normalement, je crois, est assez rapide. On peut passer, Victor. Donc là, il est avec son... Ça doit être le deuxième extrait. Deuxième extrait, ça, je ne sais pas. C'était tout, le premier? Le premier est passé, là? Oui, vas-y. Là, il est avec sa professeure de piano. Et je vous montre cet extrait pour vous montrer que tout est très mécanique au départ. Et il est très dans cette violence dont on parlait tout à l'heure. Chose qu'on voit là. Voilà, on peut arrêter là. Alors, je ne sais plus les extraits que j'avais mis en avant. Alors allons-y, on va voir. Voilà, et on voit là qu'il va se petit à petit changer de modèle. C'est-à-dire que petit à petit dans le film, son père va disparaître de sa vie. Et il va choisir cette femme comme modèle, et donc l'art qu'elle pratique comme modèle. Et là, elle lui apprend. Vraiment, là, le mimétisme fonctionne bien, parce qu'on voit qu'il progresse petit à petit dans cette conversion par l'art, parce qu'encore une fois, l'art lui-même qui est proposé est déjà converti. Voilà, donc il y arrive, il est content, nous aussi. Et l'autre extrait que je vais vous montrer, vraiment, si vous avez cette grille de lecture dont je vous ai parlé tout à l'heure, vous comprendrez les films et les séries de manière différente. Je ne dis pas que tout est, vous comprendrez tout avec ces grilles de lecture, mais avec ces grilles de lecture, vous comprendrez la conversion de cet homme et à la dernière scène qui va suivre, parce qu'on peut la passer en même temps, Victor, ça j'explique en même temps. On peut passer... Voilà, donc là, son père a été tué par cet homme-là, qu'il va rencontrer par hasard, entre guillemets, dans un ascenseur. Et là, on se dit, mais en fait, la conversion n'a pas fonctionné puisque la violence revient. Et il va avoir la possibilité, finalement, de venger son père. C'est sans doute la scène la plus violente du film, où ils sont dans un endroit très restreint, dans une cage d'escalier, où va se jouer, est-ce qu'il va venger son père jusqu'au bout ou pas? Peut-être, bon, je ne sais plus combien de temps est dur cet extrait, mais... Ouais, c'est un peu long. Peut-être qu'on peut aller jusqu'au moment, Victor, où il va sortir un pistolet, notre ami Romain Duris. Voilà. Là, c'est la scène, en fait, où on va savoir si la conversion a fonctionné ou pas. Parce qu'évidemment, s'il sacrifie cet être humain, la conversion n'aura pas fonctionné. Évidemment, ça se termine bien, vous en doutez bien. Il ne va pas le tuer. Là, je vous ai gâché le film pour ceux qui ne l'ont pas vu, et ce sera le cas encore pour deux ou trois autres choses, hein. Vous m'excuserez, mais c'est le jeu de la chose. Donc il ne va pas le tuer, on peut avancer encore un peu. Parce que ce film se termine vraiment très bien. Cette scène-là est très importante parce qu'il va aller juste après. Là, on ne sait pas encore où il va, en fait, mais là, il se retrouve dans... Voilà, il y a une scène avec l'eau, les mains sont pleines de sang. L'eau, c'est très important dans un processus de conversion. On pense évidemment au baptême, et ça n'arrive pas au début du film, ça arrive à la fin, ça, c'est la scène finale. Et on sent, voilà, que la haine sort un peu d'une autre manière, et on peut avancer. Voilà, non, bah, très bien, on va laisser comme ça. Et là, on se rend compte, en réalité, qu'il est dans une salle de spectacle où il va assister au concert de la femme qui lui apprenait à jouer du piano. Là, je pense que vous ne voyez pas bien avec la lumière, mais c'est vraiment une très belle scène. Il y a des jeux de regard qui sont vraiment bien faits. Et vous allez avoir notamment un plan qui arrivera après, qui sera important. Un peu de musique, ça fait du bien aussi. Voilà, cette scène-là est très importante parce que vous avez les mains qui viennent de fracasser quand même le meurtrier de son père, donc ils sont pleines de sang. Et c'est comme une sorte de résurrection en réalité, où les mains commencent à rejouer du piano. On voit que l'art a gagné. La conversion par l'art a réussi. Et le film se termine juste après, vous avez le générique, et après le générique, vous avez 2 ou 3 ans plus tard, et le personnage de Thomas Serre n'est pas devenu pianiste, mais il est devenu l'agent de celle qui est devenue sa femme. Donc la dame qui joue du piano main. Voilà, et le film se termine comme ça. Donc là, on peut voir que la conversion, en tout cas dans le sens qui est donné par René Girard, ce n'est pas une conversion à une religion, c'est une conversion religieuse tout de même, mais c'est une conversion vers la fin de ce désir mimétique malsain et vers une conversion vers la paix, en fait, ce qui est quand même important dans le monde dans lequel on est. L'extrait d'après, je crois que c'est Midsommar. J'espère que vous avez vu ce film, parce que je vais vous gâcher la fin sinon. Sinon, vous pouvez sortir et revenir. Ce film-là était très important pour moi parce que c'est un de mes lecteurs qui m'avait envoyé un message en disant, écoutez, vous devez voir ce film, tout votre livre est expliqué dans le film. Donc je me suis dit, j'aurais mieux fait de ne pas l'écrire et d'attendre la sortie du film. Vous avez donc je crois que ça se passe en Suède. Vous avez un groupe d'amis qui se rend dans une. Je vais très rapide, donc je vais sans doute mal raconter, mais vous avez un groupe d'amis qui va dans une fête païenne, traditionnelle, suédoise, il me semble, en tout cas nordique. Vous êtes en présence de l'art et de la beauté pendant tout le film. Les gens sont beaux, les costumes sont beaux, tout est propre, tout est épuré, mais vous sentez dès le départ qu'il y a quelque chose de malsain qui s'y passe. Et donc j'ai voulu vous montrer pour la première scène, la scène de la danse. Et c'est un film très religieux en réalité. Vous allez vivre une conversion des personnes, de tous les personnages en réalité, conversion religieuse. Donc là, c'est la jeune qui ne connaît pas encore les pas de danse et qui va petit à petit s'y mettre. Ceux qui ont un peu l'oreille, vous sentez déjà dans la musique que quelque chose de différent de ce qu'on a vu avant arrivera. Peut-être qu'on peut avancer un petit peu, parce que je crois que l'extrait est long, je ne sais plus. Ouais, 4 minutes, c'était vraiment pour vous montrer ça. Il y a un côté un peu de piège, si vous voulez, dans une certaine forme d'art, parce que vous pouvez vite être pris dedans. On est tellement dans un monde laid que quand on voit de la beauté, on peut être pris comme dans un puits sans fond. Mais il faut toujours creuser cette histoire. Et là, bon, j'ai jamais mis les traductions, mais vous connaissez le suédois comme moi, donc il n'y a pas de problème. Là, on peut passer à l'extrait suivant. Parce qu'en fait, c'est une succession de danses. Voilà. Ça, c'est une scène importante dans le film qui m'a fait comprendre le courriel de mon lecteur. On peut mettre la lecture. On peut avancer un peu jusqu'à ce qu'il se retrouve dans une chambre. Encore un peu. Voilà. Ici, c'est très bien. Ouais, c'est très bien. Là, le personnage principal vient d'apprendre une très mauvaise nouvelle. Je crois que son mari l'a trompé ou quelque chose comme ça, je ne sais plus. Et là, le mimétisme. Je ne sais pas si le réalisateur a lu René Girard, mais le mimétisme, là, va être montré de manière absolument incroyable. Si vous entendez ou si vous voyez bien, mais en réalité tous les personnages vont pleurer comme la femme, de manière est très exagérée, c'est très théâtral. Et là, on voit le mimétisme en action. Je pense que vous avez compris l'idée. Et dans l'extrait d'après, qui est la dernière scène du film, donc c'est l'extrait qui était avant, j'ai mal rangé les choses. Voilà, exactement. Là, c'est la dernière scène du film, donc ceux qui n'ont pas vu le film, j'en suis navré. Et vous avez la conclusion d'une conversion par l'art, mais par un art qui n'est pas converti, c'est-à-dire que vous avez la pratique, ni plus ni moins, d'un sacrifice rituel. Qui était en préparation pendant tout le film, et d'un sacrifice humain, avec, je ne sais pas si vous voyez vraiment, mais alors il y a des gens qui sont dans cette tente, c'est une tente qui a été reconstruite, je crois que c'est une tente en bois, voilà, c'est ça. Vous avez des gens qui sont déjà morts à l'intérieur, mais qui ont été maintenus, et sur lesquels on a mis des branches, par exemple, ou des fleurs. Et il y a trois personnages vivants à l'intérieur qui sont drogués, donc qui ne peuvent pas bouger. Il y en a un qui a revêtu une peau d'ours. L'ours, symboliquement, ça a toujours été l'homme. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'ours dans les contes. C'est l'homme et c'est le côté un peu naturel de l'homme. Et là aussi, le processus mimétique va fonctionner. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque conversion se termine toujours par un sacrifice. Si demain, il y a des non-catholiques dans la salle qui se convertissent au christianisme, au catholicisme, vous vivrez, participerez au sacrifice non sanglant, au renouvellement du sacrifice du Christ les dimanches. Toute conversion, ça c'est très important, se termine toujours par un sacrifice. Et là, ça se termine par du sacrifice humain. Et je pense que c'est voulu évidemment par le réalisateur, mais la scène est montrée de manière très belle, alors que ce qu'on voit, c'est absolument horrible. Il va y avoir des cris qui vont arriver, mais la réalisation est très léchée. Tout est extrêmement beau de la manière de réaliser, hein, je parle. Tout est très bien cadré, tout est très bien filmé. Et là, c'est cette folie mimétique dont on parlait avant qui se déploie. Donc je vous conseille vraiment ce film, hein. C'est un grand film qui est sorti il y a quelques années. On peut couper comme ça, je ne vous gâche pas la fin. Et qu'est-ce que je vous avais choisi après? Ah oui, en préparant la conférence et en voyant ce film, j'ai pensé à ce livre évidemment. Et dans ce livre, je ne me souvenais pas, mais René Girard parle de Stravinsky. Et comme ça me permet de vous montrer, on peut mettre lecture, je pense qu'on peut avancer de beaucoup. Peut-être vers le tiers de la vidéo, quand il y a des scènes de danse. Voilà, les scènes de danse là sont très bien, parce que ça ressemble en fait à la danse qu'on a vue avant. Peut-être que le réalisateur s'est inspiré de ça. C'est Le Sacre du Printemps de Stravinsky, donc de 1913, qui montrait à l'époque, devant un public qui n'était pas préparé à voir ça, en premier acte, donc vous avez des danses très païennes. Vous entendez pas bien, mais vous connaissez tous le refrain. C'est considéré comme une révolution dans l'art de la scène. Donc là, vous avez le côté nature païenne qui montre la beauté du printemps, etc. On peut arrêter là, je pense que c'est clair. Et le deuxième acte que j'ai choisi délibérément de ne pas montrer parce qu'il est quand même 10 h du matin, ça fait un peu tôt pour vomir, mais c'est une scène, l'acte 2 du Sacre du Printemps de Stravinsky, c'est une scène de sacrifice humain. Aujourd'hui, c'est expliqué comme étant une scène de fatigue, c'est-à-dire que vous avez un personnage qui danse, qui danse, qui danse, et on vous dit, mais non, pas du tout, c'est une scène de fatigue morale, psychique ou ce que vous voulez. Donc c'est symbolique. Mais quand on regarde le titre de l'acte numéro 2, ça s'appelle quand même le sacrifice. Et je vous inviterai même sur vos téléphones, vous regarderez si vous réussissez à le trouver. Pour moi, c'était assez clair que c'était un sacrifice. Donc là, vous avez encore un exemple dans une autre forme artistique d'une sorte de conversion par l'art. Mais dans quelque chose de très dangereux. Ensuite, je crois qu'on passe à une série qui est absolument, pour moi, exceptionnelle. Je pense que c'est la je n'ai pas vu énormément de séries dans ma vie, mais je pense que c'est la meilleure série que j'ai pu voir, qui s'appelle The Leftovers. Et donc, cette série est réalisée par celui qui avait créé la série Lost. Je sais pas si vous êtes peut-être un peu jeune pour connaître cette série. La série Lost, qui était en réalité une série basée sur un livre. Alors, ça n'avait jamais été vendu comme ça, mais c'était le cas. Est-ce qu'on peut mettre pause deux secondes, Victor? Merci. C'était un livre qui était un film, une série, pardon, qui était basée sur un livre de René Guénon qui s'appelle Le Roi du Monde. Et en réalité, vous ne viviez pas, enfin, vous ne regardiez pas réellement l'histoire de gens qui s'étaient crashés dans un avion et qui essayaient de survivre. Vous viviez une initiation religieuse. Quand vous avez cette grille de lecture-là, c'est très clair, d'un personnage qui s'appelle John Locke dans le film, dans la série. Mais là, je vous parle de la deuxième série qui a été créée par ce... il n'est pas vraiment réalisateur, il est producteur, on va dire. Il s'appelle David Lindelof, qui est, je pense, un génie qui a lu beaucoup de choses et qui, dans cette série The Leftovers, est-ce que des gens ont vu cette série? Bravo, monsieur. Vous êtes tout seul. Vous allez suivre également une initiation et vous allez suivre une conversion. Et une conversion par les symboles, par l'art, par beaucoup de choses. Et là, vous êtes dans une scène. J'ai choisi trois extraits. Il y a trois saisons. Un extrait par. Il faut prendre un extrait par saison. Et là, le personnage principal vient de tuer quelqu'un parce que on va dire qu'il n'avait pas le choix. Et il appelle son beau-frère de mémoire, qui est pasteur, pour l'aider à trouver une solution. Il décide d'enterrer le corps. Et la scène que je vais vous montrer, c'est une scène où là, on peut mettre la lecture. On peut avancer au moment où... Bon, c'est peut-être juste là, au moment où on va lire le passage de la Bible. Et donc, le pasteur va obliger le personnage principal à lire lui-même le passage. C'est un passage de Job que je vais vous traduire en même temps. Je vais vous le faire avant parce qu'il va plus vite que moi, je pense. Donc Job, c'est dans l'Ancien Testament, c'est une transfiguration du Christ. Il est, c'est un prophète qui subit énormément de violence. Je vous invite à en parler avec les abbés ici présents. Donc voici ce que ça dit. Et ça, dans une série américaine, c'est assez incroyable d'avoir mis ça. Mais si je vais à l'Orient, il n'y est pas. Si je vais à l'Occident, je ne le trouve pas. Est-il occupé au Nord? Je ne puis le voir. Se cache-t-il au Midi? Je ne puis le découvrir. Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie, et s'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. Mon pied s'est attaché à ses pas, j'ai gardé sa voie et je ne m'en suis point détourné. Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres, j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Mais sa résolution est arrêtée, qui s'y opposera? Ce que son âme désire, il l'exécute. Il accomplira donc ses desseins à mon égard. Et il en concevra bien d'autres encore. Voilà pourquoi sa présence m'épouvante. Quand j'y pense, j'ai peur de lui. Dieu a brisé mon courage. Le Tout-Puissant m'a rempli d'effroi. Car ce ne sont pas les ténèbres qui m'anéantissent. Ce n'est pas l'obscurité dont je suis couvert. Pardon. Donc l'histoire de cette série, parce que je ne vous ai même pas raconté, la première scène, vous êtes dans une petite ville aux États-Unis et tout d'un coup, 1% de la population mondiale disparaît. Quand je dis d'un seul coup, c'est vraiment absolument d'un seul coup. C'est comme si là, 1% des gens qui se trouvent là disparaissent tout d'un coup. Et donc, il va y avoir une quête vraiment religieuse de savoir s'ils sont... Est-ce que ce sont les fameux élus dont on parle dans la Bible? Est-ce qu'ils sont dans un autre univers? Est-ce qu'ils sont morts? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Et lui a perdu beaucoup. Je ne vous raconte pas trop la série non plus, mais lui a beaucoup perdu. Et sa femme, notamment, la femme qu'il aura plus tard, a également beaucoup perdu. Celle qu'on verra dans les prochains extraits. Donc le réalisateur joue franc jeu avec nous. Il nous fait bien comprendre tout de suite que c'est une série religieuse, mais vraiment tout de suite par des symboles. J'aurais pu vous montrer des dizaines et des dizaines d'extraits qui montrent et qui prouvent ça. Mais la question, c'est est-ce que les symboles que nous montre cet homme, est-ce qu'ils sont positifs ou est-ce qu'ils sont négatifs? Et là, je propose l'extrait suivant. Alors, je vous raconte déjà la scène qui se trouve avant cet extrait, qui est une scène très importante. En fait, on est dans le dernier épisode de la série. Il s'est passé beaucoup de choses qu'on n'a pas le temps de raconter. Mais il y a une scène de mariage juste avant cette scène-là. Je ne sais pas si ces choses-là existent vraiment, mais tous les participants au mariage... Alors, il y a un bouc qui est dans le mariage, un animal, un vrai animal, en vie. Et tous les participants ont des chaînes, des très longues chaînes colorées autour d'eux. Et ils vont mettre... symbolise leur péché, évidemment, ça n'est jamais raconté comme ça, mais c'est ça qu'il faut comprendre. Ils vont mettre leur péché sur le bouc, tous les participants du mariage, et ils vont chasser le bouc, comme on voit dans la Bible. Là, ce personnage-là va donc faire une chute de vélo. Donc c'est le dernier épisode. Et je vous laisse voir la suite. Je ne sais pas si vous voyez vraiment. Mais comme je vous ai endormi, vous ne me répondrez pas. Mais... là, pour ceux qui ont lu un peu René Girard ou qui ont vraiment compris ce dont on parle, la scène va être vraiment incroyable. Ce qui a fait dérailler le vélo, ce sont les grands colliers dont je vous parlais juste avant. Les colliers de perles, ce sont donc les péchés des hommes qui l'ont fait tomber. Si on met un peu de son, on entend ce bouc qui était présent dans le mariage et qui est pris au piège par les colliers des participants au mariage, donc par les péchés des hommes en réalité. Il est pris au piège, il n'arrive plus à avancer. Et là, vous avez une scène religieuse qui vous est proposée, puisqu'elle monte, elle essaie de monter, elle va tomber. Je vous laisse voir la suite avec la musique. Là, elle pourrait simplement libérer l'animal, tout simplement, mais ce n'est pas ce qu'elle va faire, pas que en tout cas. C'est par ces détails qu'on voit qu'on est dans une série religieuse qui parle d'autre chose, enfin de plus de choses que ce qu'on voit réellement à l'écran. Sinon, elle ne se mettrait pas les péchés autour de son propre cou. Et elle ramène le bouc, qui est le bouc émissaire, elle le ramène chez elle. Donc elle vit dans une petite ferme à l'écart pour différentes raisons, à l'écart du monde. Et elle élève des colombes. Évidemment, les colombes, c'est un symbole extrêmement fort. Ça symbolise le Saint-Esprit pour nous, catholiques. Mais c'est aussi d'autres symboles dans d'autres traditions, on va dire. Et quand elle ramène le bouc, elle se rend compte que ces colombes ont disparu. On ne saura jamais pourquoi dans la série, sauf si on a ses grilles de lecture. On lui a simplement demandé si il avait faim, et il a dû faire « ben oui », à mon avis, et il lui a donné à manger. Voilà donc le deuxième extrait. Donc on voit le côté religieux de la série et la conversion que vont vivre tous les personnages de cette série, qui sera extrêmement compliqué. C'est une série aussi belle que dure, comme vous avez pu le voir là. Il faut être un peu accroché pour la regarder. Et je ne sais pas si vous pensez la même chose que moi, mais j'ai toujours l'impression que les séries se terminent de manière décevante. C'est-à-dire que moi, je pense à la série Lost, par exemple, ça se termine, bon, c'est pas très très bien fait. Et les amateurs de séries, en général, me disent que oui, les séries se terminent toujours mal. Et cette série-là, je trouve, se termine de la manière la plus parfaite et correspond vraiment à notre idée du thème du jour, qui est la conversion. Et je vais arrêter là parce que mon temps s'arrête, qui est la conversion par l'art. Et nous, on parlait vraiment de la conversion de l'art. Et si on devait conclure, j'aimerais bien laisser profiter de la scène finale sans parler dessus, parce que vous aurez les clés pour voir la fin de la violence, la fin de la haine, la fin du désir mimétique. Vous aurez les yeux pour voir le bouc. Que va faire le bouc? Vous aurez les yeux pour voir les colombes par vous-même. Et je pense que c'est une série qui est toute girardienne parce qu'elle montre une conversion possible, non pas à une religion, mais une conversion religieuse. Ce qui veut bien dire que se convertir par l'art, ça ne suffit pas. L'art peut être une porte d'entrée, surtout aujourd'hui, avec l'art contemporain, avec tout ce qu'on peut connaître. Mais il y a aussi des très belles choses qui se font, il ne faut pas non plus être que dans le négatif. Mais ça ne peut pas être autre chose qu'une porte. C'est-à-dire que si vous voulez vous contenter d'une conversion par l'art, moi je l'ai vécu ça, je sais de quoi je parle, vous pouvez aller absolument n'importe où et vous perdre dans justement ce dont on parlait, dans le modèle par exemple. C'est-à-dire que cette personne vous a conduit, on va dire, sur le chemin d'une conversion, eh bien, vous allez le suivre jusqu'au bout. Non, il faut accepter l'humilité et se tourner vers les gens qui sont là pour ça, vers l'église, vers un abbé, vers voilà. Enfin, vous êtes assez grand pour savoir vers qui se tourner. Et je pense que la conversion par l'art ne peut pas être autre chose et plus que ça. Et c'est déjà pas mal, surtout dans le monde d'aujourd'hui. Et en préparant ce petit exposé, j'ai eu la chance de retomber sur un texte des Évangiles que je voudrais vous lire avant de passer à l'extrait et qui correspond vraiment à mon avis, à mon humble avis, je ne suis pas historien d'art, mais à mon humble avis, qui correspond à ce que l'art peut nous apporter, c'est-à-dire une sorte de processus de réconciliation, d'absence de violence, un peu de paix intérieure qui nous permettra peut-être d'atteindre une véritable conversion. Alors je vous lis, je pense que vous la connaissez, mais... Alors, donc c'est dans Matthieu, sur la colère et le pardon. Si donc, lorsque tu présentes ton offrande à l'autel, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi au plus tôt avec ton adversaire, pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge et que le juge ne te livre au garde et que tu ne sois jeté en prison. En vérité, je te le dis, tu n'en sortiras pas que tu n'aies payé jusqu'au dernier sou. À mon avis, l'art peut nous aider dans ce processus-là, qui est, encore une fois, un processus religieux. Et je vous laisse en compagnie de nos deux personnages principaux qui, il faut bien imaginer, ils se retrouvent peut-être après 30 ans, 30 ans de vie, ils se sont perdus. L'homme la cherche depuis 20 ans et ils se retrouvent pour cette dernière scène. C'est en anglais, mais vous êtes bilingue. Merci à vous.
C'est le but, il faut pas être sorcier, aux gens qui ne sont pas catholiques, Ouais. En fait, c'est une bonne question, ça. Je sais pas. Je pense que si vous trouvez quelqu'un qui apprécie ce type de série, c'est que quelque part, on en parlait en plus tous les deux tout à l'heure, avec un autre sujet, mais c'est que quelque part, il recherche sans doute quelque chose. Peut-être qu'il recherche un besoin, ce besoin de transcendance, ce besoin de beauté, d'art, etc. Donc vous pouvez sans doute donner des petites grilles, bah tiens, ce symbole, ça veut dire ça, ce symbole, ça veut dire ça, mais le problème, c'est que vous pouvez passer vite pour un rabat-joie qui a tout compris et lui rien, et le braquer, donc c'est toujours un peu compliqué. Peut-être lui passer un ou deux livres qui traitent de telle ou telle question, mais honnêtement, je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas. J'en ai aucune idée. En fonction de vos connaissances, de vos amis. Moi, la personne qui m'a conseillé cette série ne m'a jamais parlé de ça. Ce sont les lectures en fait de René Girard qui m'ont permis de comprendre ça. Peut-être que ça peut être l'occasion, ce type de choses, de dire, bah, tiens, tu devrais lire ce livre de René Girard. J'ai trouvé que ça éclairait un peu la série. Peut-être que ça peut être une bonne porte d'entrée pour lire René Girard, ce qui est une lecture toujours à mettre à son profit. Donc oui, à la limite, ça peut être une bonne idée. Merci beaucoup. Alors, ça, on en parlera tout à l'heure dans mon atelier sur le mimétisme, tout à l'heure, 14h, je crois. Mais on peut introduire ça. Là, je me base plus maintenant que sur René Girard, mais sur René Girard qui, selon ce que j'ai pu modestement découvrir, est le continuateur, et lui ne le savait pas, de Monseigneur Gaume. Je pense que vous avez tous ces livres-là chez nos amis de la Nouvelle Librairie. Monseigneur Gaume et René Girard nous expliquent quoi si on combine vraiment les thèses des deux auteurs. Ils nous disent quoi en substance? C'est que, pour faire très simple, moins il y a la pratique du sacrifice, du renouvellement du sacrifice du Christ de manière non sanglante, moins il y a cette pratique, et plus il y a la pratique possible du sacrifice sanglant. Alors ça peut être du sacrifice animal ou du sacrifice humain, mais ces deux auteurs nous expliquent bien que plus le mal est profond et plus la pureté et la rareté de l'animal ou de la personne sacrifiée doit être importante. Donc on arrivera en bout de course, c'est malheureux, mais on arrivera en bout de course de manière logique au retour du sacrifice humain. Moi, je dis ça depuis 2017, je crois, où les gens au départ se moquaient un peu en disant, mais tout ça est bien farfelu. Mais j'ai senti un changement de rictus au moment de ce qui arrivait à la pauvre Lola, en fait. Quand moi j'ai vu ça, bon, j'étais dans ma grille de lecture, donc à un moment donné, on ne voit plus les sujets sur lesquels on travaille. Donc je me suis dit, bon, calmons-nous 5 minutes. Mais ça m'a rappelé mes premières recherches qui ont donné mon livre Ce sang qui nous lie, et qui ont donné aussi La fin du sacré, édité par Victor. Et qui m'avait fait découvrir la pratique des sacrifices humains, les sacrifices houris, qui sont des sacrifices humains qui sont toujours pratiqués aujourd'hui au Maghreb. Et il y a des conditions pour ce sacrifice-là. Il faut que la personne sacrifiée soit blanche. En général, c'est une jeune fille, blonde aux yeux bleus. Et la personne sacrifiante, c'est forcément un maghrébin ou une maghrébine. Je suis désolé de dire ça, mais c'est la pure réalité. Hein. C'est pas moi qui ai inventé cette pratique sacrificielle. Donc, quand j'ai vu la photo, les deux photos mises l'une en face de l'autre, et puis cette chose bizarre qu'on n'avait jamais vu dans ce qu'on appelle les faits divers. Je me suis dit, le jour même, en allant à la librairie, j'ai dit à mes collègues, ça ressemble quand même beaucoup au sacrifice Zuri, mais il me manquait un élément, c'est que ce sacrifice Zuri, en général, il est pratiqué pour avoir des richesses. Alors, c'est des richesses symboliques, mais ça peut être des richesses aussi tout à fait matérielles. Mais il faut, en tout cas, c'est demandé, il faut que la ligne de main, d'une des mains de la personne sacrifiée, soit extrêmement grande et le plus grand possible, et quasiment de manière horizontale. Donc évidemment, moi, j'avais pas de photo de sa main, ni rien du tout. Mais le hasard a voulu que le lendemain ou le surlendemain, je tombe sur une photo de cette pauvre enfant qui tenait ses cadeaux, sans doute de Noël ou d'anniversaire, et j'ai vu cette ligne sur la main. Donc, mon avis est fait, pour moi, c'est une pratique de sacrifice humain, et j'ai vu, avec toutes les réserves qu'on peut émettre sur le travail du journaliste Carl Zero, je pense que vous connaissez tous, et il a sorti un dossier là, sur la question, où il a interrogé... Il a interrogé les sœurs de la sacrifiante et ça ressemblerait quand même à quelque chose comme ça. Donc, il faut bien se mettre ça dans la tête, c'est que malheureusement, pour faire très simple, plus la déchristianisation avance et plus le sacrifice humain revient. Alors, j'ai pas vraiment répondu à votre question, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que plus le monde est un, ce mondialisme qui fait que le monde est devenu une tribu, et plus la violence entre nous sera mondial, et donc plus le bouc émissaire, qui sera peut-être choisi un jour, devra avoir une portée mondiale aussi. Mais on en parlera plus tout à l'heure, si vous venez en tout cas à cet atelier, qui sera réjouissant, comme vous pouvez le voir. Je suis désolé, je ne comprends pas ce que vous dites avec la... Zuri, les sacrifices Zuri. De mémoire, c'est Z-H-O-U-R-I. De mémoire. Aujourd'hui, je ne sais pas, mais comme je l'ai dit, c'est un sacrifice de demande. Il y a plusieurs formes de sacrifices. Il y a des sacrifices de pardon, il y a des sacrifices d'offrande. Là, c'est un sacrifice de demande. C'est-à-dire que vous demandez une richesse aux divinités auxquelles vous croyez et qui vont vous donner en retour des richesses. Et tout ça est très documenté en réalité. Il y a des textes qui montrent que telle personne, après avoir sacrifié cette chose-là, a trouvé par hasard une caisse en or dans son jardin. Tout ça, il y a des témoignages là-dessus. Alors, évidemment, c'est sans doute faux, mais les témoignages sont référencés, je veux dire, de manière claire. Et je ne voulais pas le dire maintenant, mais parce que c'est filmé, mais je vais le dire quand même après tout. Pourquoi est-ce qu'on ne nous a jamais parlé de la possibilité que ce soit un sacrifice humain? Parce que si c'est reconnu officiellement et qu'au journal, au JT de 20h de TF1 ou de France 2, on vous dit bah, la pauvre Lola a subi un sacrifice rituel humain qui vient du Maghreb, ça veut dire que ce sacrifice, la première cause, c'est du racisme. Parce que la personne est blanche qu'on la sacrifie. Donc là, tout le système immigration, etc., tombe à volo parce que les gens vont se dire « Mais attends, il y en a des centaines de milliers qui viennent chez nous et ils nous sacrifient chez eux. » Donc ça peut partir rapidement en problème. Donc je pense que c'est la raison pour laquelle on a très peu parlé. Il y a quand même quelqu'un qui en a parlé, qui a émis l'hypothèse. C'est cet ancien député dont je n'ai pas le nom en tête, qui est souvent chez Pascal Praud les matins. Je n'ai plus son nom en tête, et qui était, lui, spécialisé il avait des commissions d'enquête parlementaires sur la violence sur les enfants. Et lui avait dit, sur le plateau de CNews, que ça ressemblait quand même à des choses qu'il avait déjà vues. Et je crois même qu'il a dit chez Hanouna que c'était peut-être un sacrifice Zuri. Donc ça a un peu infusé quand même, mais tant qu'il n'y a pas le tampon officiel, ça ne prend pas non plus totalement. Merci à vous.